Europe 1,
11h30,
le meilleur des bienfaits pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous nos auditeurs.
Vous êtes dans Bienfait pour vous, votre émission bien-être, tous les jours de 11h à 12h30. Et ici, du lundi au vendredi, on vous parle de votre vie quotidienne, comment mieux consommer, mieux gérer votre vie de famille ou même vos amours. Bref, on s'occupe de tout.
Et pour cela, on vous a préparé une sélection de nos meilleurs moments. Ces invités qui nous ont apporté de vrais bienfaits à tous. On commencera aujourd'hui avec ce sujet. Une maison zéro déchet, est-ce possible ? On parlera de notre consommation, en passant par l'alimentation, l'hygiène. On va tout revoir ensemble tout en faisant en plus des économies. C'est Julie Bernier qui va nous coacher. Elle est militante et l'auteur du livre « Zéro déchet, le manuel d'écologie quotidienne chez Solar ».
Après cela, on va parler de notre consommation de viande, mais pas du point de vue de l'environnement. Attention, hein, avec notre invité, la médecin nutritionniste Laurence Plumet, on va s'intéresser surtout à l'intérêt et aux méfaits éventuels de la viande sur notre organisme.
Enfin Julia, on va faire également le point sur l'ennemi juré des femmes, enfin des messieurs aussi, mais ils en ont moins souvent que nous quand même, à savoir de la cellulite. La dermatologue Marie Jourdan nous dira quelles sont les dernières techniques efficaces pour s'en débarrasser.
Europe 1.
On a décidé de démarrer par cette question, une maison zéro déchet, est-ce que c'est possible sérieusement? Je crois que vous êtes loin du compte Mélanie, mais un peu comme moi franchement.
Oui Julia, je vais pas mentir, mais je ne demande qu'à m'améliorer et pour cela je suis vraiment preneuse de conseils. On va voir ça dans un instant, mais avant, il y a quelqu'un qui a été interroger les gens sur leur façon de consommer, de jeter, de recycler au quotidien chez eux. C'est bien sûr Clément Lanoux, bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, effectivement une
vous
maison.
Vous n'avez pas été faire les poubelles quand même j'espère.
J'ai tout fait, j'ai tout fait. Journalisme d'investigation. Effectivement voilà. C'est possible mais c'est compliqué. J'ai demandé un peu aux Français ce qu'ils en pensaient. Alors est-ce qu'une maison zéro, mais alors zéro déchet, c'est possible?
Non, je pense que c'est impossible. Moi, j'ai des enfants, je sais pas si vous avez déjà essayé les couches réutilisables, c'est pas pratique, enfin, je vous fais pas un dessin, mais bon. Donc non, je pense pas que la maison zéro déchet, ça existe un jour.
Ouais, non, je pense pas. Par exemple, moi, le matin, je bois du café, et j'ai pas trop le temps, donc le confort de mettre la capsule dans la machine, non, je peux pas m'en passer, là, en vrai.
Quand je regarde la chambre de mes enfants, je me dis qu'il y a un sacré truc à mettre à la poubelle, quand même. Et là, je peux vous dire que ça fait un sacré paquet de déchets. Je parle pas des enfants, hein. Je parle des jouets.
J'ai cru qu'il allait vous demander, je sais pas si vous avez déjà essayé les enfants.
Évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué de faire du tri, de se priver un peu de confort, de se dire, le café, oui, je peux le faire moi-même, je peux aller chercher en vrac, je peux faire ça, ça prend une demi-heure. Une capsule, c'est tellement pratique. On nous rend tellement la vie facile que c'est dur. Alors après, il faut aussi trier. J'ai demandé aux enfants, eux, c'est une nouvelle génération, normalement, ils sont plus éduqués que nous.
Oui, je pense que c'est possible. Bon, moi, je préfère le confort d'une vraie maison quand même.
Ouais, on peut avoir une poubelle jaune, une poubelle rouge, une poubelle verte, une poubelle marron.
Oui, il y en a des poubelles.
Ils apprennent, ils connaissent plus que les adultes, justement.
Ça, sûr,
alors,
ouais.
Pour ceux qui ne connaissent pas, chers auditeurs, voici un petit résumé de ce qui va où.
Alors, pour le plastique et les emballages, c'est la poubelle jaune.
Bravo.
Pour le papier, c'est la poubelle bleue. Mm-hmm. Pour les déchets ménagers, c'est vert ou noir. Et parfois, c'est même marron.
Ouais,
et
ouais.
Pour le vert... C'est vert normalement.
Ouais, on sent que c'est pas
la bleue,
complètement
sûr. Pas moi la bleue.
Voilà.
Daltonien cet enfant.
Peut-être qu'il s'est trompé, on ne sait pas. Et puis j'ai eu le miracle devant moi alors que je parlais comme ça. Je suis tombé sur une personne, parce qu'on parle de déchets, qui a son propre compost, en fait chez lui, qui a quelque chose. Il nous a expliqué pourquoi c'était si bien.
Oui, j'ai réduit d'un tiers mes déchets avec un lombricompost. Donc tout ce qui est organique, que ce soit du carton ou des restes d'un repas, on le met dans le lombricompost et il y a des petits vers qui ne sont pas des vers de terre, c'est assez différent, qui mangent les déchets et qui en font de l'engrais, en fait, tout simplement. Tous mes amis se moquent de moi, parce qu'ils trouvent ça assez crade. Ils ont plus peur de ça que des serpents, je crois. Moi, je les considère comme mes petits animaux de compagnie. Je vérifie qu'ils vont bien tous les jours. Je remue un peu la terre, je vérifie que tout va bien et tout va bien dans ce lombricompost.
Si vous voulez des petits animaux de compagnie et sauver la planète, ça peut être une solution. On en parlera évidemment tout à l'heure. Et puis, j'aimerais terminer, parce qu'on parlait du vrac, c'est-à-dire aller jeter vraiment des choses sans les emballages directement. Il faut se déplacer, c'est plus long. J'ai été agréablement surpris quand j'ai entendu ça.
Moi, j'achète tout en vrac. Je ne sais pas trop si c'est écolo, mais en tout cas, c'est pas cher.
C'est pas cher. Je pensais au contraire, moi, j'avais une image très très chère et apparemment
vous
de moins en moins.
Vous dites à chaque fois, il faut se déplacer. Vous vous déplacez pas pour aller faire vos courses et acheter des trucs emballés, c'est pareil.
Non, je claque des doigts, je livre tout, je commande tout. Non, mais parfois c'est plus compliqué parce qu'on a des bocaux, on se dit, c'est pas forcément à proximité et c'est le problème. Et j'avais une image très chère de ça et apparemment les prix deviennent de plus en plus abordables parce que tout simplement ça se multiplie. Il y a de plus en plus d'endroits où on peut aller acheter au vrac.
Eh ben merci pour cette enquête.
Elle était pas en vrac. Celle-ci, elle était pas en vrac.
Non, vous êtes bien droit, c'est génial. vous retrouve bien sûr demain avec un nouveau
avec
reportage.
Avec plaisir. Ouais, je retourne parce que j'ai fait les poubelles, je retourne sous la douche, j'ai laissé couler l'eau.
D'accord. Non, c'est pas vrai. Bon, quelle horreur. Et la lumière allumée.
Mais évidemment,
alors,
évidemment.
Merci pour votre bonne humeur. Tout de suite, il est temps de présenter notre invité pour répondre concrètement à notre question du jour. C'est vous, Julie Bernier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes militante et l'autrice du livre Zéro déchet, le manuel d'écologie quotidien aux éditions Solar. Alors, quand on parle de déchets quotidiens, déjà, ça correspond à quoi ? Est-ce que ce sont seulement nos poubelles, par exemple ?
C'est d'abord nos poubelles, donc vraiment ce que vous allez mettre à la fois dans la poubelle ménagère et les poubelles de tri, et même tout ce qui est ce que le monsieur compostait.
Ouais.
Ça fait partie des chiffres qu'on a. En général, ça représente pour chaque habitant environ un peu plus de 350 kilos de déchets par personne par an.
Par français, quoi, c'est ça ?
Par français, par an. Ouais. Et donc, ça veut dire pratiquement un kilo de déchets par jour par personne. C'est énorme.
Mais c'est énorme.
Et attendez, ça ne s'arrête pas là, malheureusement. Si on ajoute les déchets, les meubles qu'on va mettre à la déchetterie et autres, on arrive à 590 kilos de déchets par personne par an.
C'est énorme.
Et si j'ajoutais à chaque tête, à chaque habitant, tous les déchets de la France, le BTP, les déchets médicaux qui sont plus ou moins essentiels, médicaux essentiels évidemment, on arriverait à plus de 13 tonnes de déchets par habitant.
C'est incroyable. Comment se situent justement nous les Français par rapport à d'autres pays ? Est-ce qu'on a mesuré le nombre de tonnes par Suédois ou par une autre nationalité ?
Alors oui, la plupart des pays occidentaux sont aussi les plus pollueurs. Mais là, on touche à un autre sujet, c'est que c'est pas forcément le volume de déchets qui va importer dans cette question, mais plutôt la nature du déchet, puisque produire du papier n'a pas le même impact sur l'environnement que de fabriquer un ordinateur portable ou autre. Donc il n'y a pas seulement le poids.
Alors justement, on va refaire un petit cours parce qu'on a parfois du mal à saisir le lien entre la quantité de nos déchets et l'épuisement de nos ressources. C'est lié, mais est-ce que vous pouvez nous réexpliquer de quelle façon ?
Alors, quand on mesure le poids d'un déchet, on parle du sac à dos écologique. C'est-à-dire que c'est toutes les ressources qui ont été utilisées pour extraire les premières ressources avant fabrication, fabriquer le produit, transporter le produit, utiliser le produit et puis, in fine, lui donner une fin de vie. Et là, ça monte très très haut. Donc, une simple brosse à dents de quelques grammes peut peser jusqu'à 1,5 kg de ressources.
Ah oui.
Un ordinateur, là, ça s'envole, c'est 1500 kg de ressources en moyenne. Rien qu'une bague en or, ça peut être 2 tonnes de ressources. Et ça, c'est...
Je me tiens mon doigt. Il faut arrêter d'acheter des bagues en or.
Ce qui est intéressant, c'est que ce dont vous disposez déjà, si vous l'utilisez, si vous l'aimez, ouais, gardez-le. L'important, ça va être plutôt de réfléchir à l'avenir.
Ils sont en quoi, vos bijoux, à vos oreilles, là ?
C'est de l'argent.
L'argent, c'est mieux,
je crois.
Ouais,
c'est pas forcément, c'est pas mieux, non.
Ouais. D'accord.
Mais
gardez-les longtemps, n'en achetez pas
exactement
trop. C'est ça,
l'idée. Les premiers piliers du zéro déchet, c'est refuser et réduire notre consommation.
Bien sûr.
Encore une fois, ce que vous avez, ne jetez pas la poubelle.
Gardez
nos
bijoux, Julie.
Ce n'est pas la peine de jeter. C'est plutôt à l'avenir, réfléchissons à ce qu'on consomme.
Alors, pour une vie zéro déchet, vous avez établi la règle des 5 R. Ce sont 5 piliers pour réduire la quantité de nos déchets. Alors, quels sont ces 5 R, rapidement ?
Ces 5 R, c'est d'abord refuser. Donc, tout ce qui n'est pas utile, dire vraiment...
Refuser d'acheter, quoi. Hein,
refuser d'acheter, exactement. Ou refuser même, ça peut paraître étrange, mais non, ce qu'on va vous donner gratuitement, les petits échantillons, les petits trucs qu'on accumule, qui ne servent à rien et qui ont malgré tout un impact sur nos vies, sur l'environnement. Réduire.
Deuxième R, ouais.
C'est le deuxième R et c'est tout réduire, à la fois ce qu'on achète, mais aussi peut-être dans l'alimentation, certains produits qui vont avoir un impact sur la planète supérieur, les produits animaux, notamment la viande, le poisson, etc. Réutiliser, c'est le troisième R, réutiliser ce que l'on a déjà, plutôt que de racheter systématiquement,
de les réparer éventuellement,
du neuf, exactement.
Voilà, ouais.
Réparer, ça pourrait être un autre R.
C'est ça.
Recycler, c'est le quatrième R et vous voyez qu'il n'arrive qu'au quatrième pilier. Donc le recyclage, c'est vraiment la dernière façon d'être écolo, Avant, il faut d'abord réduire, refuser, réutiliser, réparer.
Et le dernier,
c'est rendre à la terre, parce qu'il fallait un R, mais en gros, ça veut dire composter ses déchets.
C'est ça. Et composter, ça commence par un C, ça ne nous arrangeait pas. Mais oui. En fait, ça veut dire la même chose. Ouais. Alors, je sais qu'on est, il y a beaucoup d'auditeurs là qui sont en train de nous écouter et de faire comme Mélanie et moi et de se dire, oh là là, on est des mauvais élèves, etc. Honnêtement, c'est vraiment beaucoup de contraintes, non, pour tendre vers le zéro déchet?
Je dirais pas que c'est des contraintes, mais c'est un temps un peu long parce qu'il faut revoir tout ce qu'on a toujours fait au quotidien. Et donc, ça peut paraître une très grosse montagne, mais en fait, un pas par un pas...
Et c'est notre responsabilité, hein, vous dites, c'est important l'individu dans cette histoire.
C'est important l'individu et à la fois... Le but n'est pas de culpabiliser l'individu parce que les plus gros pollueurs et les plus grands fabricants de déchets sont avant tout les entreprises. Et si on voulait vraiment tendre le zéro déchet...
C'est ce que disent
déchets,
beaucoup les gens qui ne le font pas eux-mêmes. Mmh. Hein, ils disent, bah, après oui. Tout, ce n'est pas moi qui pollue le plus. Moi, je ne serais qu'une petite goutte dans l'océan.
Eh bien, à la fois, c'est vrai, mais et à la fois, je pense que c'est très important d'incarner ce qu'on veut, nos valeurs. Ce serait étrange de dire à quelqu'un, fais ça alors que je ne le fais pas. Et donc, je pense qu'il faut à la fois... incarner ce zéro déchet, la sobriété, le changement sociétal qu'on veut, et à la fois ne pas perdre de vue que l'individu a une responsabilité, mais la société, l'État, les entreprises sont celles qui ont l'impact le plus gros au niveau des déchets et de la pollution.
11h30 sur Europe 1, le meilleur de bienfaits pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Alors Julie, on va voir maintenant tous les petits gestes pour avoir une maison zéro déchet et on va débuter par la cuisine parce que c'est clairement la pièce où l'on produit le plus de déchets, mais jusqu'à quel point?
Vous pas trop, vous cuisinez pas trop.
Franchement, moi je suis hyper écolo, grâce à moi il y a très peu de déchets dans ma cuisine.
Alors il y a effectivement beaucoup de déchets dans la cuisine, des déchets très très simples souvent à éviter. On parlait du compostage. Effectivement, les déchets organiques, donc qui pourraient finir au compost, représentent un tiers de nos déchets. Donc un peu plus de 110 kilos de déchets par an et par personne.
Et le reste, c'est quoi alors, les déchets de la cuisine?
Eh bien, ça va être le plastique, des emballages, Bah non, en fait, c'est beaucoup de plastique. Non, bah ouais, mais oui. Le carton, des emballages aussi. C'est que des emballages, en fait. Tout ça, c'est
mais
vraiment
c'est vrai que
beaucoup d'emballages.
Parfois, je ne sais pas si ça vous fait ça, Mélanie, mais on sort les courses et on met presque plus de temps à défaire les emballages qu'à ranger les produits. Donc, heureusement, il y a le vrac. Hein.
Alors, il y a le vrac.
Ça, c'est une vraie solution pour réduire dans la cuisine.
Absolument, c'est une vraie solution. L'important, ça va être d'utiliser, quand on achète en vrac, des choses qui sont réutilisables. Donc, des petits sachets, par exemple, en tissu plutôt qu'en craft, parce que le craft, c'est aussi du carton qu'on va jeter. Donc pareil, essayer d'utiliser des matières qu'on peut réutiliser.
Vous avez d'ailleurs une petite astuce, je crois, perso, pour fabriquer des sacs de vrac. Expliquez-nous.
Oui, j'ai beaucoup récupéré des petits t-shirts de bébé qui n'étaient plus utilisés. Et en fait, on peut facilement coudre des petits sachets de vrac avec.
C'est trop mignon.
C'est très simple, ça prend 3 minutes. Et du coup, on n'a pas...
Puis un côté nostalgie parce que ça avec des petites fringues des enfants en plus, c'est
oui,
sympa.
Oui, j'ai des sachets de vrac avec des petits nœuds et des petits cœurs, c'est formidable. et là, pour la consommation, au-delà de réduire ses déchets, on peut aussi décider de changer de consommation en allant vers des circuits courts, aider des producteurs, des circuits de distribution d'aliments biologiques. Donc au-delà de réduire notre empreinte, de réduire nos déchets, on a aussi une empreinte positive sur la société.
Moi j'aimerais bien qu'on change de pièce un peu, Mélanie.
Oui,
je vous en parle dans la cuisine.
Je suis sûre que vous allez aller dans la salle de bain. Je vous connais un petit peu.
Je vais dans la salle de bain, j'y passe beaucoup de temps. Est-ce que c'est possible d'avoir une salle de bain sans poubelle? Parce que alors là, on remplace par quoi? Mes cotons tiges,
la mienne,
tout
elle est pleine de cotons démaquillants surtout.
Alors moi non, moi j'ai testé un nouveau truc, c'est les cotons. Je ne sais pas si vous allez nous parler de ça, Julie, les cotons réutilisables.
J'ai plus besoin d'en parler puisque vous avez déjà fait.
C'est quoi des efforts? Ces cotons utiles. Parce que moi j'ai des carrés cotons quoi.
Eh ben c'est la même chose, mais en version réutilisable, ça peut être fait avec des anciennes serviettes ou du coton, du lin, autre chose.
Et
c'est
très simple.
Moi, je fais ça et je trouve ça super.
On les lave à la machine à laver et c'est tout. On les réutilise.
On les remet dans la salle de bain et on réutilise et on recommence.
Exactement.
Et c'est vachement bien, moi, je trouve. Effectivement. Mais voilà,
ça
je vous conseille.
Mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que j'ai beaucoup entendu au début de l'émission le mot confort. Confort, ouais. Même venu d'enfants. C'est ça
vrai,
qui est drôle. Hein. On a l'impression qu'on renonce à un confort. En réduisant nos déchets, en étant plus sobre dans nos vies, je ne pense pas. En fait, la plupart des choses, elles sont peut-être étonnantes. Elles bousculent un petit peu notre quotidien au début.
Elles ne sont pas inconfortables.
Elles ne sont pas du tout inconfortables. Ouais. Sinon,
vous avez l'air d'être une fille qui vit dans la vie confortable. Vous êtes rayonnante, franchement.
Mélanie, on ne passerait pas à la chambre, ça m'intéresse.
Je voulais juste un petit mot sur les hommes dans la salle de bain, parce qu'on a parlé de nous qui faisions des déchets des femmes, mais les hommes, ils se rasent aussi. Et vous dites notamment dans votre bouquin que les hommes pourraient se raser sans gel de rasage. Mais pourquoi faire d'ailleurs?
Eh bien, en fait, on peut utiliser, comme à l'époque, là, on n'a rien inventé, il y a encore quelques années, on le faisait, on peut utiliser un blaireau, un petit savon de Marseille, on frotte le blaireau sur le savon de Marseille, on l'utilise, ça fait une sorte de mousse, et après, on peut utiliser, par exemple, plutôt qu'un rasoir jetable, un rasoir de sécurité, pour les femmes aussi, d'ailleurs, pour nous raser, c'est la même chose, le même processus.
Et c'est beaucoup mieux.
Moi,
c'est super. Alors voilà, je voulais
changer. Passe à la chambre.
Je passe à la chambre et notamment au dressing. On n'imagine pas forcément l'impact environnemental de l'industrie textile, mais je crois que c'est très très lourd, non ?
Oui, alors c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Et ça, c'est notamment dû aux teintures, mais surtout à la fabrication complètement excessive qu'on a. On fabrique plus de 100 milliards de vêtements dans le monde chaque année.
Et ça aussi, c'est en train de changer. Hein.
C'est, oui, mais pas assez vite.
Ouais, pas assez vite. Mais c'est vrai que là, je sais pas comment on peut appeler ça, l'envie de consommer de manière frénétique les vêtements, il faut que ça change.
Exactement. On est vraiment sur une industrie plus prête à porter, prête à jeter. Et donc là, pareil, l'important, c'est de refuser. Réduire.
Alors, on a cette question de Bruno qui vit près de Limoges sur la page Facebook de l'émission qui demande « Alors j'essaie à la maison de faire baisser ma consommation en électricité et en eau. Concernant la machine à laver, à quel degré faut-il laver son linge dans l'idéal ? Et quel est l'intérêt du mode éco sur la machine ? J'en ai un sur mon lave-vaisselle aussi, mais c'est un cycle qui dure 4 heures et donc il est très étonné quoi. »
Ouais, peu d'intérêt, le mode déco.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Globalement, moi, je préconise surtout de laver le plus froid possible, d'accord, en fonction des besoins. Évidemment, les draps d'un enfant qui a été malade, on les lave toujours à 90 degrés.
Bien sûr.
Plutôt les cycles courts. Moins on utilise des appareils, mieux c'est. Donc, cycle court et plutôt froid.
D'accord. Donc, le mode éco, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, hein, finalement.
Je te conseille.
Ouais, c'est ça. Il y a aussi Anne-Laure qui nous a laissé un message au 3921, notre répondeur. Elle demande comment bien gérer ses déchets quand on vit dans un 15 mètres carrés à Paris. Le tri, je veux bien, mais je ne veux pas avoir 3 poubelles dans mon studio. Je ne peux pas. Sinon, je vis au milieu des poubelles. Avez-vous des conseils pour les mini-surfaces ?
Eh bien, si on ne fait pas entrer le déchet dans la maison,
il n'y a pas besoin de poubelle.
Pas besoin de poubelle. Et après, sinon, petite précision, il y a des possibilités d'avoir un compost chez soi, même dans des petites surfaces.
Dans 15 mètres carrés en compost.
C'est, ouais. C'est des tout petits lombricomposteurs, comme le monsieur le disait en début d'émission, avec des petits verres à compost qui vont venir manger les déchets. Ça ne prend pas plus de place qu'une poubelle.
Ouais, d'accord. J'ai une petite question perso en parlant de compost. J'en ai deux dans mon jardin, très grand, parce qu'on a des potagers partagés. C'est un jardin partagé. Sauf qu'on y met beaucoup depuis un an, on va dire, et il n'y a toujours pas d'engrais. Quoi. Ça, c'est lent quand même. Ou alors, on ne sait pas s'y prendre.
J'ai peur qu'il y ait un petit peu de ça. Oui. Parce que normalement, au bout de 6 mois, on peut déjà utiliser le compost qui est en dessous, en le prenant par le dessous.
Je regarde en dessous, ça n'a pas l'air très encore...
Je vous conseille de quand même le mettre dans les plantes. ça devrait marcher.
C'est pas gagné, Mélanie. Bon. il y a également Mohamed dans le 92, sur notre compte Instagram. Il dit que ses voisins ont installé un grand composteur, justement comme vous, Mélanie, dans leur jardin partagé. Mais il demande quel est l'intérêt et ce qu'il peut y mettre dedans.
Ce qu'il peut y mettre dedans, tout ce qui est épluchure. En fait, tout ce qui n'est pas animal, donc on n'y met pas
les croûtes de
fromage, les restes de viande,
plus,
de poisson, on n'y met pas les huiles.
On peut y mettre du carton, par contre, dedans.
On peut y mettre du carton, parce qu'en fait, c'est organique. Le carton, ça va se dégrader. Par contre, donc, toutes les épluchures, le carton, même le papier, à la limite, il faut juste bien le déchirer. Les petits restes de coquilles d'œufs, si on les broie bien. Et en fait, ça, c'est beaucoup, beaucoup de déchets.
D'accord.
Donc, il y a peu de choses qu'on ne peut pas mettre. Et en fait, on n'y met surtout pas de restes animaux aussi, pour des raisons, parce que ça peut attirer les rats, notamment.
On aime bien éviter ça.
Voilà.
Il y a Martine au 3921. Qui dit, si on a chez nous des animaux de compagnie, j'ai un chat, dit-elle, comment réduire les déchets, notamment en ce qui concerne sa litière? Elle dit qu'elle jette tout, tous les 3 jours, dans sa poubelle noire. Poubelle noire, c'est-ce bien ou pas, demande-t-elle.
Eh bien, on peut les composter, mais attention, ce n'est pas un compost qu'il faudra mettre dans le potager. Ouais. C'est très important parce que les chats peuvent être porteurs de bactéries qui se transmettent à l'humain. Et donc, ce compost-là, il faut déjà le faire composter 2 ans avant de l'utiliser. Et ensuite, on peut l'utiliser dans les massifs, pour nos plantes vertes.
Pas des choses qu'on va manger, quoi.
Pas des choses qu'on va manger, exactement.
Mais pour les fleurs et tout ça, ça ne pose pas de problème.
Mais on peut le faire. Et par contre, plutôt privilégier une litière organique dans ce cas-là et pas minérale.
D'accord.
Naturel.
Alors, une question qui m'intéresse beaucoup, que pose Manon sur Twitter. Elle dit que je n'ai pas réussi à trouver d'alternative aux éponges classiques, donc on parle de ménage. Hein. Mmh. Auriez-vous une solution? J'ai entendu parler du tawashi. Pourriez-vous m'en dire plus? C'est quoi ça?
Oui, alors le tawashi, c'est une éponge qu'on fabrique avec des anciens vêtements, qu'on peut tous fabriquer à la maison. Après, sinon, il y a des brosses à vaisselle, dont on ne jette que le bout de la brosse. Et une partie est réutilisable, une autre est compostable.
Mais comment on fabrique un tawashi?
Non, c'est compliqué. Là, il faudrait que je puisse vous faire un petit dessin.
Mais en gros, c'est un assemblage de vêtements, c'est ça?
Alors, on fait beaucoup avec d'anciennes chaussettes.
Des tutos sur Internet,
C'est vraiment du tissage. Et effectivement, il y a beaucoup de tutos sur Internet et ça s'écrit donc T-A-W-A-S-H.
Et ça marche aussi bien qu'une éponge classique?
Ça marche aussi bien qu'une éponge classique, mais pour ce qui est comme une éponge classique, hein, pour ce qui est très gras ou ce qui est très très, enfin ce qui reste collé dans le fond de la casserole, on peut utiliser plutôt des brosses à vaisselle. Ou après, il y a plein de petites astuces, des coquilles d'œufs broyées, ça peut permettre de dégraisser le fond des casseroles, par exemple, ou de la cendre, ça fonctionne très bien aussi.
Europe 1, le meilleur de bienfaits pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine pour être bien dans sa tête, dans son corps et dans sa vie. Et on s'intéresse ce matin à notre consommation de viande. Avec vous, docteur Laurence Plumet, vous êtes médecin nutritionniste.
Alors docteur Plumet, vous êtes également l'auteur du grand livre de l'alimentation paru aux éditions Erol. Alors on va revenir sur la viande, notre sujet du jour. En 2016, selon une étude du Crédoc, les Français mangeaient 135 grammes de produits carnés par jour. Donc ça, c'est toute viande confondue. Est-ce qu'on est vraiment, du coup, nous les Français, des gros viandards?
C'est très hétérogène, parce qu'en fait, les hommes mangent plus de viande que les femmes. Les hommes mangent plus de viande rouge que les femmes qui sont plutôt viande blanche. Je crois qu'en moyenne, on est plutôt à 30, 40 ou 50 grammes de viande par jour.
D'accord.
Par jour.
Donc beaucoup moins que les 135 annoncés, effectivement.
Oui. Elle a baissé la consommation de viande, d'ailleurs, à l'avantage du poulet, puisqu'en fait, ces annonces sur le potentiel éventuellement cancérigène de la viande rouge, ça a quand même refroidi beaucoup de consommateurs. Et donc, ils ont diminué leur consommation de viande, surtout de viande rouge. Alors, cette accusation qui était faite, disons que ce terme qui est quand même un peu fort, parce qu'on sait bien que le cancer, c'est une maladie qui est multifactorielle et que les principaux facteurs de risque de cancer, c'est le tabac, l'alcool, rappelons-le quand même, l'obésité, la sédentarité et puis des facteurs génétiques. Et donc, pour qu'un aliment soit responsable à lui tout seul d'un cancer, ce n'est pas possible. En revanche, la viande rouge, elle était censée être un facteur de risque supplémentaire de cancer du côlon rectum pour une consommation donc de viande rouge et en des quantités importantes, à raison de plus de 500 grammes par semaine.
Mais ces gens-là, il faut qu'ils soient prévenus quand même, parce que c'est un risque qui existe et donc mieux vaut diminuer si on a 500 grammes par semaine quand même.
Oui, alors on est vraiment sur des catégories de population qui sont là très carnivores et qui mangent tous les jours la grosse entrecôte. Alors, pourquoi on pensait que ce type de viande pouvait augmenter le risque de cancer? C'est parce que c'est une viande qui est riche en fer. Et alors, c'est justement pour ça que c'est intéressant d'en manger, mais quand on en mange en quantité trop importante, ça peut être pro-oxydant et peut-être un peu abîmer les cellules du côlon. Mais je rappelle que ceci n'est valable que pour des quantités excessives.
Alors, vous parlez de quantité, justement, docteur. Alors, quelle serait la quantité idéale à consommer par semaine de viande?
Oui, alors, peut-être par jour, déjà. Je vais donner des repères en fonction des âges. Déjà, un enfant de 1 an peut tout à fait manger un tout petit peu de viande. Alors, quand je dis viande, c'est viande rouge ou viande blanche, parce que c'est bien d'alterner les deux. En fait, il faut faire moitié-moitié.
D'accord.
Et donc, à 1 an, c'est 20 grammes. À 3 ans, 30 grammes, je dis par jour. À 4 ans, 40 grammes. 5 ans, 50 grammes. 7 ans, 70
grammes. À 18 ans, c'est 180 grammes.
Non, on s'arrête à 10 ans où on est à 100 grammes. Et après, pour une femme, on est sur une portion d'à peu près une centaine de grammes la portion, donc dans la journée, de viande ou de poisson d'ailleurs. Et donc 100 grammes pour une femme et plutôt 150 grammes pour un homme.
Pourquoi plus pour les hommes ?
Parce que l'homme a des besoins énergétiques plus élevés, il a aussi
en
une
général,
masse musculaire.
En général, ils sont un peu plus costauds que nous,
oui,
mais pas toujours.
Ça. Donc ils ont le droit de manger plus de viande.
Oui.
Vous êtes
oui,
plus
oui.
grande que moi, peut-être vous avez le droit d'en manger plus que moi.
Non, mais c'est une vraie question.
C'est pas une question de taille, c'est une question de masse musculaire. Ah, les ouais. hommes ont beaucoup plus de muscles que nous, donc ils ont des besoins en protéines qui sont plus élevés. Voilà.
D'accord.
Donc, c'est la raison pour laquelle les portions de viande peuvent être un peu plus importantes.
Docteur Plumet, on parlait tout à l'heure donc, de la viande rouge et des éventuels, du risque potentiellement cancérogène. Je crois qu'ils avaient alerté quand même surtout sur les viandes dites transformées et aussi les charcuteries.
Oui.
Là, manger de la charcuterie tous les jours, il n'y a pas de doute. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour les artères, c'est ça ?
Ah oui. Ça, bon, indépendamment du fait que c'est très gras.
Il faut limiter sa consommation.
Oui, bien sûr. Et puis les charcuteries sont salées, il y a des sels nitrités dedans. Là aussi, il y a des recommandations sur une consommation.
Sauf dans
le
saucisson de mon boucher, moi, il m'a dit que je pouvais y aller tranquille.
Sur Mélanie, vous voilà. croyez tout ce que vous dit votre boucher.
Oui, mais si, franchement, sur les 14 repas que l'on fait dans la semaine, hein, déjeuner et dîner fois 7, ça fait 14. Bon. Sur les 14 repas, moi, ce que je recommande dans le cadre d'une alimentation saine, variée, équilibrée et gourmande, c'est de manger 2 ou 3 fois de la viande rouge par semaine en respectant les quantités dont je viens de parler. Hein. C'est une portion de 100 grammes pour une femme et 150 grammes pour un homme. Donc, 2 ou 3 fois dans la semaine. Ensuite, 2 ou 3 fois dans la semaine de la viande blanche. Voilà. Ensuite, 2 ou 3 fois...
La blanche, c'est pas que le poulet. Il y a la volaille, le lapin.
Absolument.
Aussi,
absolument.
Le veau, on le classe dans
plus
quoi ?
Plus veau et porc. Ensuite, qu'est-ce que
il nous reste une dizaine de repas.
Oui,
hein,
alors, oui. 2 ou 3 fois
à la fin, Julien.
2 ou 3 fois du poisson, dont ouais. essentiellement du poisson gras, qui est très intéressant au plan nutritionnel. Et puis, n'oublions pas les œufs.
Ah,
là, on peut en manger 3, 4 fois, 5 fois dans
la semaine. Vous êtes sûr, il y a du cholestérol là-dedans, non?
Ah oui, mais ça, on fera une émission sur les œufs si vous le voulez bien.
Faut-il manger des œufs ou tout du moins diminuer?
Le cholestérol de l'œuf n'impacte pas le taux de cholestérol sanguin. Donc, c'est une profonde injustice que de se priver d'ailleurs des œufs.
Alors, on a parlé du risque de manger trop de viande, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne pas en manger assez ou voire pas du tout ?
Oui, alors, les femmes sont souvent victimes de ne pas manger assez de viande rouge, car elles sont à risque de manquer de fer. Particulièrement les femmes qui ont des menstruations abondantes, qui portent un stérilet en cuivre.
Ah bon qui avec souffrent... le stérilet aussi, à ce risque-là ?
Oui, parce que les menstruations sont beaucoup plus abondantes que sans stérilet. Ensuite, en cas d'endométriose, de fibrome, d'anénomiose, bref, dès lors qu'il y a quand même des petites hémorragies tous les mois, ça compte sur le bilan fer. Et si ce sont des femmes qui ne mangent que de la viande blanche, voire même qui sont végétariennes, à ce moment-là, il est fréquent de constater qu'elles souffrent d'anémie.
Et de carence en fer. Alors justement, si ces femmes-là nous écoutent, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller comme type de viande pour justement prendre du fer et prendre des forces ?
Et ce n'est pas juste la semaine des règles, hein, c'est ouais. pour tout
ah
le
oui,
mois,
oui,
on
oui,
est d'accord.
Oui, c'est chronique. Hein, c'est chronique. Alors, concernant les viandes rouges, si on peut essayer d'en parler avec elles pour changer un peu leur comportement, la viande rouge, bon, elles sont souvent écœurées par des viandes rouges qui sont peu cuites. Hein, la tranche de roast beef saignante, le faux filet à peine cuit. Bon, il y a des femmes qui sont écœurées par ça. En revanche, le petit steak haché ou faire des boulettes de viande avec du steak haché et de la sauce tomate, là, ça commence à être déjà bien plus gourmand. Ensuite, le foie. Le foie est également très riche en fer. Seulement, beaucoup de femmes vont se dire « Ah,
moi le foie, ça ne me donne pas très envie. » Comment vous le cuisinez ? Peut-être que ça va nous motiver. Comment vous le cuisinez, vous ?
Ah ben moi, c'est à la poêle avec un petit beurre noisette. Mm-hmm. Ensuite, on déglace avec du vinaigre balsamique et on sert ça avec une petite purée. Purée de pommes de
terre. Ça donne déjà un peu plus
et
envie.
Une petite compote, voilà. Mais vous savez, en nutrition, hein, il faut parler aussi ouais. de recettes. Alors, la grosse tranche de foie, ça peut un peu écœurer. En revanche, les petits foies de lapin qu'on trouve maintenant dans les grandes surfaces, c'est très bon, c'est beaucoup plus petit.
J'ai la larme à l'œil. Hein,
bon, je peux dire, les lapins.
Je vois le petit lapin, je vois son petit foie et puis je vois l'assiette.
Mais je suis sûre que si je vous dis foie de volaille, vous verrez moins la volaille.
Mais
là,
comment
dans
ça
ce
se fait ? Alors, comment vous expliquez ça ?
Ah, bah parce que c'est affectif, on fantasme beaucoup avec l'alimentation, on fait des transferts.
On a plus souvent un petit lapin dans sa maison qu'une
Bien
petite
sûr.
Poule. C'est
ah
plus...
non, moi j'ai.
Ouais,
et ça a été pareil, c'était pareil avec le cheval aussi. Hein. Ça a tué la consommation de viande de cheval, hein, parce qu'on humanise l'animal, bien sûr. Donc le foie de volaille, c'est excellent pour les femmes, parce qu'elles peuvent les associer dans la salade composée. Mm-hmm. Vous faites une salade verte, vous mettez des petits morceaux de foie de volaille avec des pignons de pin, c'est absolument délicieux. Autre astuce, les moules. Les moules sont très très riches en fer. Donc manger des moules de façon importante, c'est formidable. Et n'oublions pas les légumes secs, comme les lentilles, les flageolets, les haricots. Les lentilles se digèrent plus facilement que les autres légumes secs. Le fer est un peu moins bien absorbé et je conseille à la fin du repas de consommer un fruit riche en vitamine C, car la vitamine C va augmenter l'absorption du fer d'origine végétale.
Bon, on a toutes les astuces là. Est-ce que ça veut dire qu'une femme qui serait encore réglée, qui nous écoute, mais qui est végétarienne, parce qu'elle la viande, tout ce que vous avez raconté, même le petit foie de lapin bien cuisiné, ça ne l'attend pas du tout et elle n'a pas envie et elle a ses raisons et on les respecte bien sûr. mais elle peut être carencée, donc ça veut dire que potentiellement ces femmes-là, elles doivent se supplémenter en fer.
Alors, c'est possible. Maintenant, si elles mangent des œufs, les œufs contiennent du fer aussi, hein. Donc le végétarien mange des œufs, la végétarienne mange des œufs. Donc ça, déjà, c'est une source de fer potentielle. Ensuite, il faut qu'elle soit à l'écoute de son corps. Si elle se sent très fatiguée, un peu palichonne, essoufflée, les cheveux qui tombent,
elle
les ongles
anémie,
un petit peu cassants,
hein, ouais.
C'est un signe d'anémie. Il faut qu'elle en parle à son médecin, qui fera un bilan sanguin, qui confirmera effectivement que les réserves de fer sont faibles et qui donc va la supplémenter. Il y a la supplémentation est obligatoire dans ces cas-là, avec des taux de fer importants, c'est du fumafer ou du tardiféron, 80 mg de sulfate de fer par jour. Et ça, pendant 2 ou 3 mois, il faut beaucoup de temps pour ressourcer les réserves en fer. Mais les conseils nutritionnels doivent être associés, puisqu'elles ne vont pas prendre quand même ce genre de compléments toute leur vie. Mais disons que c'est le talon d'Achille de la végétarienne. Ça, elle doit le savoir.
Alors justement, en parlant de talon d'Achille, il y a beaucoup de jeunes et notamment beaucoup d'ados qui deviennent parfois brutalement végétariens ou véganes. Est-ce que, vu leur âge, il y a un risque pour leur croissance et leur santé en général? Est-ce que s'ils décident de choisir ce camp-là, est-ce qu'il faut les accompagner justement avec des compléments alimentaires? Qu'est-ce que vous leur conseillez?
Oui, alors d'ores et déjà, je dirais que le véganisme n'est pas fait pour ni un enfant, ni un adolescent, ni une femme enceinte, ni une femme allaitante, ni chez des gens âgés. Parce que c'est un mode d'alimentation qui risque d'entraîner énormément de carences. Alors, on peut se débrouiller, être en bonne santé en étant végane, mais alors il faut vraiment être calé en nutrition et savoir se supplémenter. Il y a au moins 5 ou 6 carences potentielles. Le végétarisme, ça n'est pas pareil. On mange de tout. Les produits laitiers, des œufs, et puis ensuite, évidemment, les aliments d'urine végétale. Donc, les carences ne concernent que le fer. Donc, un adolescent ou une adolescente qui décide d'être végétarienne, pourquoi pas penser au fer. Mais le mieux est encore le flexitarisme. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de manger trop de viande pour des raisons, la terre, l'animal, etc., on peut se garder de manger de temps en temps une belle pièce de viande, que ce soit au restaurant, chez des amis ou parce qu'on a envie de se faire plaisir, parce que c'est vrai que c'est bon et il n'y a pas de mal à ça. La viande fait vraiment partie de l'équilibre alimentaire et elle a de réelles qualités nutritionnelles.
Oui, alors les Français, vous disiez tout à l'heure que, Laurence, que les Français ont diminué leur quantité de viande. C'est aussi peut-être à cause du prix, puisque la viande coûte de plus en plus cher.
C'est vrai, vous avez raison, ça devient un aliment...
Le prix de la viande a augmenté plus vite que celui de l'inflation.
Oui, c'est peut-être aussi pour ça, non ?
C'est aussi pour ça que les gens vont vers des viandes qui sont moins chères, comme la volaille, par exemple. Hein. Le poulet, le lapin, il y a certainement une notion de coût qui intervient dedans.
Mais bon, c'est ça aussi qui est bien, en manger moins. Ok, elle est plus chère, donc évidemment, on va peut-être se restreindre un peu. Donc pour la santé, c'est pas plus mal, et pour le porte-monnaie aussi. En manger moins, mais de la bonne.
Voilà, absolument, une belle entrecôte, une belle côte de bœuf.
Parce que j'ai dit de la bonne, je viens de rigoler.
Non, parce que... Ces viandes qui sont souvent vendues en supermarché, on s'aperçoit qu'elles ont un rapport souvent de protéines et de lipides qui n'est pas forcément très bon. Je crois qu'un bon steak haché, bien sûr, il faut qu'il y ait un petit peu de gras, mais il faut quand même qu'il y ait une majorité de protéines. Et plus elles sont ultra transformées, plus il y a de gras et moins il y a de chair noble.
Mais
dans
par
ces
exemple, quand il y a écrit, Laurence, 30%, 15% de gras, alors
sur le steak haché.
Oui, voilà, qu'est-ce
oh là là, alors 30%, là, on est plutôt sur de la saucisse, là, 30%.
Non,
de
il y a
des
steaks hachés à 30, non, il me semble.
Ah bon
aussi.
Bah alors,
non.
C'est de la viande très, très spéciale.
Ah non, c'est 15 ou 5, je crois.
Ah voilà,
oui, c'est
15. Le steak haché qui est gras, il est à 15% de matière grasse. Alors, c'est bon, c'est savoureux, très bien. Mais souvent, moi, ce que je recommande, c'est un bon compromis, c'est celui qui est à 8% de matière grasse. Voilà, hein, c'est ni trop, ni trop peu, et c'est assez savoureux.
Alors justement, on va terminer par quelques questions pratiques de nos auditeurs. Docteur Plumet, on a celle-ci au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez des questions, on vous répond dès que possible. Là, c'est Nicolas, on l'écoute.
Oui, bonjour, j'avais une question. Depuis le début des vacances, je me suis mis à manger beaucoup moins de viande. J'en mange 2-3 fois par semaine. Est-ce que c'est ça, être flexitarien? Parce que j'entends ce terme un peu partout. Et donc voilà, je me demandais. Et si c'était mieux que d'être carnivore ou végétarien?
Bon, on a déjà un petit peu parlé, docteur Plumet. C'est ça, être flexitarien, manger un jour sur deux, par exemple, c'est ça?
Un peu moins, peut-être, encore.
Deux
ou trois fois par semaine, c'est bien. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut, finalement, baisser sa consommation de viande sans en avoir un inconvénient sur la santé? C'est parce que les protéines de la viande peuvent tout aussi bien être apportées par le poisson et par les œufs. Je dirais même que les protéines des œufs sont encore meilleures que celles des protéines de la viande. Parce que les lipides de la viande peuvent être apportés par les autres aliments et parce que les vitamines du groupe B, dont la vitamine B12, se trouvent également dans le poisson et dans les œufs, qui en contiennent en quantité importante. Donc ceci pour dire que si on se prive de viande, c'est plutôt un aspect gustatif, c'est plutôt se priver d'un aliment qui est bon et savoureux. Mais sur le plan nutritionnel, il n'y a guère de conséquences si on compense soit la viande rouge par de la viande blanche, soit la viande avec le poisson et les œufs, sur le plan santé, il ne se passera pas grand-chose, en dehors du fer chez des femmes qui en ont particulièrement besoin.
D'accord.
Mais encore une fois, la question, c'est de dire, faut-il se passer de viande ? Non. Quand on aime la viande, on peut en manger et c'est très bon pour la santé, à condition d'en respecter le mode d'emploi.
Alors, dernière question, toujours via Facebook, de Léon, dans les Côtes d'Armor. Alors, il dit qu'il a fait le fameux régime du camp, il y a quelques années. Enfin, perso, moi aussi, j'ai essayé.
Elle avoue, elle confesse beaucoup aujourd'hui.
Oui, je confesse énormément. Et on mangeait tous les deux beaucoup de viande, des protéines animales, donc du coup, à tous les repas. Il a eu la chance de perdre 25 kilos, lui.
Ce qui n'a pas été votre cas, vous n'avez pas autant à perdre quand même, vous n'avez rien même.
Non, mais c'est vrai que ça sèche, comme on dit. Est-ce que on peut dire que la viande fait maigrir ?
Alors, le gros inconvénient des diètes hyperprotéinées, comme leur nom l'indique, c'est qu'on est dans l'excès de protéines. Et les protéines, autant c'est utile. Nous, par exemple, femmes, il nous en faut à peu près 60 grammes par jour. Pour un homme, 80 grammes. Il faut savoir que dans ces diètes hyperprotéinées, où on faisait manger beaucoup de viande aux personnes, on pouvait monter jusqu'à 250 grammes de protéines par jour, au lieu de 60 à 80.
C'est pas dangereux pour la santé ?
Eh bien, si.
Pour les reins, non, je crois.
Eh bien, voilà. Parce que dès lors qu'on consomme beaucoup trop de protéines, que ce soit protéines animales ou protéines végétales, mais avec les animaux, on arrive beaucoup plus vite à l'excès de protéines parce qu'ils sont très riches en protéines, beaucoup plus que le règne végétal. Et donc, quand on est dans l'excès de protéines, il y a excès de déchets azotés, c'est une agression pour les reins. Et donc, d'ailleurs, il y a eu des avertissements qui ont été passés avec ce type de régime. Donc, ça n'est pas bon.
Il faut beaucoup boire dans ces cas-là.
Oui, mais enfin, surtout...
Parce que je me souviens, à l'époque, Julia, vous vous sentiez...
Non, je rigole. Ah oui, c'est pas genre la mauvaise haleine avec ce régime.
Oui, alors pourquoi ce régime
d'ailleurs,
faisait...
je faisais pas de radio à l'époque.
Pourquoi ce régime faisait maigrir ? C'est parce qu'on était dans l'excès de protéines qui sont très rassasiantes, donc ces gens-là n'avaient pas faim. Et d'autre part, dans ce régime, il n'y avait pas de glucides du tout. Il n'y avait pas de féculents, il n'y avait pas de légumes, il n'y avait pas de fruits, parce que l'objectif, c'était surtout de ne pas réveiller le pancréas et de ne pas sécréter l'insuline.
C'est à cause de ça, la mauvaise haleine ?
C'est normal, c'est normal. L'insuline fait rentrer le glucose dans les cellules. Comme il n'y avait pas de féculents ni de produits sucrés, du coup, le corps, il n'y avait que des protéines, le corps fabriquait des corps cétoniques comme carburant de secours, et c'est ça qui était responsable de cette mauvaise haleine. Donc, c'était un régime surtout à ne pas faire.
11h30 sur Europe 1, le meilleur de bienfaits pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Docteur Marie Jourdan, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes dermatologue à Paris et membre de la Société française de dermatologie. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la cellulite et évidemment surtout de comment s'en débarrasser. Mais avant cela, on va tenter de comprendre de quoi on parle. La cellulite, c'est quoi physiologiquement ?
Alors, physiologiquement, déjà, c'est quelque chose de naturel, puisque ça concerne plus de 90% des femmes, puisque c'est surtout sous l'égide des hormones et notamment des œstrogènes. Donc, pourquoi la plupart d'entre nous ont de la cellulite ? C'est parce que c'est une répartition graisseuse sous-cutanée, qui est perceptible donc à l'œil, et son organisation en grappe de raisin fait qu'on perçoit des capitons, des creux, des bosses à la surface.
C'est vraiment un truc très féminin, que féminin, ou est-ce qu'il y a des hommes qui en ont quand même aussi ?
C'est une exception chez les hommes, c'est 2% des hommes dans les statistiques, et c'est vraiment exclusivement quasiment féminin.
Oui, alors certaines y échappent comme Mélanie Gomez, certaines n'y échappent pas comme moi.
Mais personne n'en a dans ma famille, c'est génétique la cellulite ou pas ? Les femmes en ont pas. Ça n'empêche pas qu'on soit ronde, mais il n'y a pas les petits trous, quoi.
Oui, il y a un côté héréditaire, mais aussi parce qu'il y a plusieurs sortes de cellulite. Il y a une cellulite aqueuse liée à, par exemple, de l'insuffisance veineuse. L'eau va stagner, donc ça va
être bien liquide, quoi, non ? C'est ça, on la voit
c'est
pas.
Ça. C'est et ça, ça. C'est héréditaire un peu aussi, l'insuffisance veineuse. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs, génétiques notamment.
Et on va en parler avec vous plus en détail tout à l'heure. Certaines femmes croient avoir de la cellulite, mais en fait, vous dites que parfois c'est juste du relâchement.
Alors en fait, oui, la cellulite, cet aspect globuleux au niveau de la peau, il va s'accentuer dans certaines conditions. Par exemple, après la ménopause, avec le relâchement cutané, ça va encore plus créer des petits sacs, etc. J'adore, vous faites une tête. Ah, mais ce n'est pas grave.
Non, c'est pas une maladie.
C'est pas grave, mais c'est moche.
Il y a la rétention d'eau, effectivement. La peau est parfois un peu plus fine, etc. Donc oui, il y a plusieurs facteurs qui font que ça va plus se voir. Mais en réalité, toutes les femmes ont une couche graisseuse sous-cutanée, plus que les hommes, qui est souvent plus intraviscérale d'ailleurs chez les hommes. Et d'ailleurs, on a un peu plus de gras que chez les hommes. C'est 25% du poids chez la femme.
Et bien sûr, ici, on donne des conseils pour celles que ça gêne, mais si vous êtes très bien avec votre cellulite,
gardez-la,
évidemment. On est assis dessus, parfois c'est très confortable. Est-ce que d'ailleurs il faut être forcément en surpoids pour avoir de la cellulite ?
Pas du tout, c'est pas du tout en lien avec le surpoids, enfin il y en a peut-être plus chez les patients obèses, etc. Mais on peut très bien avoir de la cellulite en étant toute mince, puisque c'est juste la perception à l'œil d'une couche graisseuse qui est très utile, puisqu'au départ, la femme stocke plus sa graisse au niveau sous-cutané, parce qu'elle en a besoin au moment où, de la grossesse, au moment de l'allaitement. Enfin, c'était à l'époque où, aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans les pays dans lesquels on vit, quand on a faim, on mange. Mmh. Mais au cas où, il y avait ce petit stockage. C'était un matelas, justement, avant de s'asseoir dessus.
Est-ce qu'il y a des zones, docteur, sur le corps où la cellulite adore s'incruster? Vraiment, c'est son truc.
Bah, ces zones, c'est la répartition graisseuse préférentielle chez la femme. Ça s'appelle la répartition gynoïde. C'est les hanches, les fesses, le haut des cuisses.
Et le ventre, un peu.
Et effectivement, la bouée.
Et vraiment, quand on est gâté, on peut en avoir un peu sur les bras, hein, quand même.
Ça arrive, même les mollets. les bras, effectivement. Mais là, c'est souvent, il faut pincer la peau pour l'apercevoir. Mmh. Et la répartition gynoïde, parfois, sans même pincer la peau, on voit que ça n'est pas lisse.
Bon, docteur Jourdan, on va passer aux solutions. Avant de parler des traitements esthétiques, on va y venir. Il y en a grosso modo 3 techniques. Est-ce que ça marche, les crèmes qu'on voit partout dans le commerce, hein, anti-cellulite, soi-disant? Est-ce qu'il y en a une ou deux qui marchent? Si vous les avez, vous nous donnez tout de suite la marque, ça sera plus vite.
En fait, pas forcément une marque, mais il y a des principes actifs où on sait qu'ils vont avoir une action sur les cellules graisseuses. Comme on parle d'une couche graisseuse sous-cutanée, c'est une bonne idée de se dire je mets une crème et du coup, ça va aller dans la peau.
Ouais, donc,
comme
mais genre à base de caféine. Mais
voilà, faut pas rêver. Hein,
caféine,
la caféine,
alors,
le lierre, c'est les deux molécules. Ça va pas forcément aller jusqu'à l'hypoderme, mais quand bien même ça touche les cellules graisseuses, c'est un effet purge. Ça aide les cellules graisseuses à se vider, mais ça ne les enlève pas.
Alors vous disiez que la cellulite n'a rien à voir avec si on est mince ou pas, mais si on perd du poids, ça peut aider donc à faire partir un peu de cellulite ou pas?
De toute façon, tout ce qui va aider à perdre du poids, la modification du régime alimentaire, moins de sucre, moins de graisse, etc., le muscle, raffermir la peau également, tout ça va aider.
D'accord. Alors il y a 3 techniques, je l'ai dit, médicales, on va dire, qui peuvent combattre la cellulite. La première, c'est ce qu'on appelle le Selfina. C'est quoi? Est-ce que c'est valable et utilisable entre guillemets sur toutes les zones du corps?
Le Selfina, c'est un peu le traitement du symptôme. Évidemment, on ne va pas enlever la couche graisseuse, ça ce serait de la liposuction. Là, on veut enlever l'aspect gondolé de cette graisse sous-cutanée.
Et la peau Selfina,
d'orange. Exactement. Et le Selfina, c'est pseudo-chirurgical. Hein. Ça se passe dans une salle propre. On a une ventouse qui va aspirer les endroits particulièrement gondolé. Et de là, une aiguille va pénétrer sous la peau, donc il y a quand même une effraction cutanée. Elle va dilacérer, en fait, elle va couper le creux, ce qui tire le capiton dans le fond de la peau.
Et qui donc fait
ça,
trop.
Exactement.
Ça vaut cher, ça?
Ça coûte un bras, ou une fesse, je sais pas.
Je préfère que ça soit une fesse.
Allez, honnête. Non, c'est moins qu'une liposition, mais c'est autour de 3 000-3 500 euros pour enlever tous les trous.
Est-ce que ça marche? Est-ce que ça demeure dans le temps? Voilà.
Alors voilà, l'intérêt du Selfina, même si on peut traiter quelques 3, 4 ou une dizaine de trous quand les femmes serrent les fesses et elles n'aiment pas les quelques trous principaux, c'est que c'est très très durable, c'est même permanent.
Ah génial.
Donc ça peut être intéressant sur sur
l'aspect. Ça fait mal un peu, hein. Ça fait mal, non?
On peut s'asseoir après, il peut y avoir quelques bleus, mais c'est pas si douloureux que ça.
D'accord. On peut utiliser aussi la radiofréquence contre la cellulite, je crois. Expliquez-nous comment ça marche.
La radiofréquence, c'est une grande famille de machines qui vont chauffer la peau très fort. En fait, c'est un courant électrique qui va être converti en chaleur dans la peau et de manière superficielle. Donc, il y a quand même des radiofréquences de très bonne qualité avec des innovations qui font qu'elles arrivent à pénétrer un peu plus profondément jusqu'au gras. Mais elle a surtout un intérêt de retendre la peau. Et ça, sur le plan esthétique, ça peut être une combine pour moins voir l'aspect gondolé.
Bien sûr, même question. Déjà, est-ce que ça dure dans le temps et combien ça coûte?
Elle veut tout savoir, Juliette.
Ah ben moi, c'est un vrai sujet. Hein.
Radiofréquence, et vraiment, comme je vous disais, c'est une grande famille. Il y a vraiment il y a des très fortes, il y en a des plus softs, mais globalement,
mais là, c'est
un
demi-bras.
Il faut plusieurs.
Ça coûte moins cher.
En tout cas, c'est réparti dans le temps. Donc, ça lisse les dépenses.
C'est 250 entre 500 la séance.
250 à 350 selon les zones qu'on fait. Et il faut en faire 4 à 6.
D'accord.
Dans le temps.
Alors la dernière technique qui est la plus récente, je crois, elle utilise la micro-onde et qui traite donc là plus profondément. Ça s'appelle Onda, je crois. Expliquez-nous comment ça agit et quelle est l'efficacité, puis le coût tant qu'à faire, parce que Julia va vous le demander.
Ouais,
parce que
de toute façon, il me reste plus de bras là.
Elle a plus rien là.
Mais la micro-onde, en fait, on va se balader sur le champ des énergies qu'on utilise en médecine. Donc après la radiofréquence, on va sur une micro-onde, effectivement, qui a l'intérêt d'être moins absorbée cette énergie par la peau et plus par la graisse. Ça permet d'aller plus profondément, chauffer très fort. Et là, on va pouvoir atteindre vraiment l'hypoderme, ces cellules graisseuses. Et en les chauffant très fort, en fait, on ne fait pas seulement que les vider, mais on en détruit une partie. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, cette chaleur qu'on aura apposée très profondément va diffuser à la surface de la peau. Et donc, par diffusion, ça va retendre la peau.
Je crois que c'est la technique que vous préférez. Hein. Ça marche très bien.
Oui, il y a des bons résultats. Après, ça dépend des patientes. Vous savez, des patientes qui... C'est surtout, qu'est-ce qu'elles ont vraiment ? Parce que j'ai de la cellulite, puis en fait, il y a beaucoup de relâchement. On va plutôt aller sur la radiofréquence. C'est vraiment le profil qu'on doit regarder. Quoi.
Ça coûte combien ?
Ça coûte entre 300 et 500 euros, pareil, selon toute la surface qu'on traite. En revanche, il y a moins de séances. Ça peut être 4 séances, mais elles sont réparties sur le temps espacées de 3 semaines.
Et c'est durable ?
Et c'est durable. Alors, il peut y avoir
des rechutes.
Non, pas des rechutes, parce que tu peux diminuer la quantité de cellules graisseuses, mais c'est évident qu'un entretien est majeur, que ce soit sur le plan musculaire, tonicité de la peau. Ça n'a aucun sens d'aller faire des machines, se dire que l'argent va tout payer. Il y a un moment où il faut prendre soin de soi et le régime alimentaire, effectivement.
On passe aux questions de nos auditeurs, nos auditrices, plutôt, je ne vais pas vous mentir. À commencer par celle-ci qu'on a reçue sur la page Facebook d'Europe 1, c'est Sonia, près de Montpellier, qui demande si, quand on a pas mal de cellulite sur les jambes surtout, c'est pas le symptôme d'un problème de circulation sanguine ou de lymphe ou rien à voir. Alors qu'est-ce qu'on peut lui répondre ?
Ah, si, il y a une bonne partie des cellulites qui sont liées à de la rétention d'eau. En tout cas, elles peuvent être mixtes aussi. Ça peut être le régime alimentaire pas adapté et la rétention d'eau. Donc tout ce qui va lutter contre la rétention d'eau, les chaussettes, les pas de contention, etc., les massages, les drainages lymphatiques vont diminuer l'aspect cellulitique. Mais c'est totalement suspensif. Vous arrêtez de faire ça, boum, ça revient.
Ah ouais. Il faudrait avoir quelqu'un qui nous fasse des palpés roulés tous les soirs à la maison.
Exactement.
Quoi.
Vous voulez pas venir,
mais mon mari, je crois.
Venez, je vais vous former. Bon, d'accord, merci. Docteur Jourdan, il y a aussi une question d'Olivia qui a 34 ans. Elle nous a laissé un message sur le 3921 sur notre répondeur. Elle dit avoir lu sur Internet qu'il faut se doucher à l'eau très froide sur les zones avec de la cellulite pour la faire disparaître. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, mais il faut rester toute la journée sous la douche froide.
C'est suspensif. Bah, là, il y a un double avantage. On va avoir un effet sur le raffermissement de la peau et sur le drainage du fait du massage. Si le jet est puissant, c'est encore mieux. Donc on a ce fameux palpé, presque palpé roulé avec le jet d'eau l'eau froide. Ouais. Et effectivement, c'est pareil. Ça peut diminuer la rétention d'eau, donc l'aspect cellulitique, mais c'est transitoire.
Alors vous nous avez parlé du drainage lymphatique, mais j'en profite, vous parlez de palpé roulé, ça sert à quelque chose ?
Effectivement, le palpé roulé, il va drainer l'eau vers le haut, donc il va aider à l'élimination et ça peut casser un petit peu les petites fibres entre les grappes de cellules, etc. Mais quand je vous dis c'est transitoire, c'est parce qu'on est des bipèdes, on se tient debout. Je veux dire, si vous allongez toute la journée,
vous risquez d'avoir d'autres problèmes. Après,
c'est vrai que j'ai pas de cellulite allongée. Pourquoi je me lève ?
Autre question d'Emilie sur Twitter qui demande si lorsqu'on a de la cellulite, il faut boire davantage d'eau que les autres pour l'éliminer.
Alors ça, c'est un peu un mythe, cette histoire de « je bois de l'eau pour me détoxifier, éliminer la graisse parce que j'ai bu de l'eau
». On aimerait bien que ça marche comme ça. Mais...
J'avais vu cette étude qui montrait quand on boit un demi-litre d'eau avant de manger, en fait, ça diminue la cellulite, mais parce que ça
coupe plus
l'appétit, en fait. Donc on mange beaucoup moins et forcément, il y a moins d'amas graisseux, etc.
D'accord. Après, il y a des techniques, moi je sais tout. De toute façon, la cryothérapie, là, on va dans un caisson pendant 3-4 minutes.
Très froid, très froid.
À moins 180 degrés, ça peut marcher, ça ?
Ça peut être très motivant, mais ça fait pas grand-chose. C'est
vous
surtout pour la récupération
votre
musculaire.
Pour rien, apparemment.
Non, moi ça me fait du bien, mais ça sert à rien sur ma cellulite. C'est ça.
Ouais, d'accord. Après, il peut y avoir un effet de raffermissement cutané, mais pas sur le très long terme.
Allez, une petite dernière pour la route, c'est Mina B, toujours sur Twitter, qui nous demande si finalement la meilleure des solutions pour se débarrasser de la cellulite, c'est pas quand même la bonne vieille liposuction. On l'aspire ce gras et on n'en parle plus, au moins, dit-elle.
Alors, pas du tout. Ouais, liposuction, elle diminue le volume de graisse, mais elle ne change rien à la manière dont la graisse s'organise. En plus, la liposuction, alors ça c'est vraiment pour les patientes qui veulent diminuer du volume. Hein, parce qu'en en fait, on peut même avoir des petites traces de canules après la liposuction. Ça peut même être un petit peu plus gondolé, marquer le relâchement cutané. Mais en rien du tout, ça va changer l'organisation entravée, perpendiculaire à la peau, avec cet effet gondole de la peau.
Il paraît qu'au-delà d'un certain âge, je parle du mien, il faut pas tellement faire de la liposuction parce que la peau est relâchée, c'est ça ?
Oui, c'est ça va marquer le relâchement cutané. C'est pas forcément une bonne idée. C'est Je ne sais pas si c'est en plus beaucoup la demande actuellement, mais souvent, les jeunes filles aujourd'hui, elles veulent enlever de la graisse des cuisses pour en mettre un peu plus au niveau des fesses. Alors, il y a encore plus de cellulite au niveau des fesses. On ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien.
C'est vrai que c'est la mode d'avoir des formes. Donc, on est content.
Les formes,
et puis les hommes, ils ne voient pas la cellulite. Ils ont un filtre, ils ne voient rien.
Ouais, c'est ce qu'ils nous disent, Julien, je crois. Merci beaucoup, docteur Jourdan, d'avoir été à nos côtés ce midi. Merci pour tous vos conseils. Très pratique, la cellulite, on peut s'en débarrasser. On l'a compris, si on le souhaite, bien sûr. Sinon, on reste assise dessus. Il existe aujourd'hui, en tout cas, des techniques efficaces. Merci encore.
Europe 1,
11h, midi 30.
Le meilleur de Bienfait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine Feel Good Bien-être. Ici, on ne vous propose que des bons conseils, nos meilleurs bons plans et surtout les meilleurs moments de l'émission depuis le début de l'année. Et on vous a préparé ça avec un grand soin, spécialement pour les fêtes.
Et donc, on va commencer notre séquence tendance avec tout d'abord la chronique gastronomie. Aujourd'hui, avec Philippine Darblay, on va passer à table avec les meilleures huiles d'olive du moment. Elle nous donnera même quelques astuces pour bien napper, sublimer nos assiettes à la maison. Et puis, avec Cécile Coumont, on va découvrir un truc étonnant, vous l'entendrez, elle a testé pour nous un simulateur de vieillissement.
Ensuite, il y aura la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Lui aussi, ce midi, il a testé quelque chose pour nous. Il a eu recours à une facialiste. Il nous expliquera ce que c'est. Et bien, je peux déjà vous dire qu'il a très bonne mine depuis. Et enfin, pour clôturer ce tour de table de la meilleure façon qui soit, c'est Sophie Braffman, notre experte mode, qui sera avec nous. Elle s'est lancée une mission de la plus haute importance. Elle est partie à la recherche de cette perle, de cette femme licorne, la parisienne. Existe-t-elle vraiment ? Mythe ou réalité ? Elle nous dira tout.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Allez, c'est parti pour la séquence tendance de cette émission. Notre bande de chroniqueurs, de chroniqueuses, que dis-je, est bien installée avec nous dans ce studio. Et il est midi. Alors, place à la gastronomie. Parce que soyons honnêtes, l'émission s'appelle Bien fait pour vous. Qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien, Julia, dans la vie? À part les massages, bien digérer, tout ça.
Bien manger, bien manger, déguster. Et pas d'ailleurs que des choses pour garder la ligne. Quoique le produit savoureux dont on va parler avec vous, Philippine Darblay, c'est très bon aussi pour la santé. Philippine, on y va, faites-nous saliver.
Bah oui, c'est très jolie introduction, merci beaucoup. C'est vrai que dans cette émission, où vous parlez de bien-être, on parle de conso aussi, pour savoir un petit peu quels sont les produits à avoir chez soi. Et si dans la cuisine, il y a bien un ingrédient important, surtout pour manger plus sainement, c'est...
l'huile d'olive.
J'aimerais bien vous dire le beurre, parce que je suis un peu une...
Mais non,
vous êtes normande, bretonne. Non, c'est pas... un petit peu, exactement.
D'accord.
Mais bon, l'huile d'olive est un petit peu plus saine, ça c'est sûr. Bon, et évidemment, quand on veut manger plus équilibré, il faut plus de légumes, entre autres, et donc un meilleur assaisonnement, ce qui est quand même le remède anti-boring pour transformer une salade en bombe atomique, il faut le dire. Alors l'huile d'olive, évidemment, on le sait, elle est excellente pour la santé, elle est riche en oméga 9, elle diminue le risque de maladies cardiovasculaires, elle baisse le cholestérol. Elle est riche aussi en antioxydants. On parle de ralentissement.
C'est un produit magique en réalité.
Ouais,
hein, c'est presque un médicament, on dirait.
Ça l'est. Oh, c'est vrai, ça commence par la nourriture, les médicaments. Et qui mieux que les chefs pour vous aider à choisir votre huile? Alors, j'ai d'abord interrogé un chef qui s'appelle Simone Tondo, qui est sarde, qui est aux manettes du restaurant Racine à Paris, qu'il décrit comme une bistro-stéria. Donc, c'est un mélange entre bistro et osteria. Et voilà ce qu'il me répond quand je lui demande ce que c'est pour lui l'huile d'olive et surtout comment il l'a choisie.
Moi, l'huile d'olive, c'est un produit qui fait partie de notre archive des goûts. J'ai choisi mon huile par rapport à sa provenance, par rapport au type d'utilisation. Donc, un huile plus léger et plus fruité sûrement du Nord, Ligurie, et un huile un peu plus corsé, plus fort et plus présent, sûrement du Sud, donc Sicile, au moins de Sardaigne.
Et quand je lui demande les marques qu'il utilise...
L'huile d'olive, c'est quelque chose que, dans ma culture, tu achètes à des gens que t'aimes, pour sauvegarder certains terrains et entretenir de belles relations, d'amitié. Donc on peut aller en Grèce avec son Ralis, donc Profit Grec, qui est un super copain. On peut aller en Sicile, il y a Cédric Casanova qui fait une grande huile d'olive. Vraiment, il y en a tout. On n'a pas vraiment un huile phare, on en a plusieurs et sont tous très importants dans notre cuisine.
Bon, si j'ai bien compris, pour choisir l'huile d'olive, en fait, il faut opter pour l'amour, c'est ça, Philippine?
Exactement.
Il en utilise donc des différentes d'huile d'olive?
Oui, c'est ça. Il explique tout à fait qu'il utilise entre autres celle de Cédric Casanova, il le cite, ou celle d'Alexandre Ralis, par exemple avec une ricotta maison, de l'origan et du poivre et du sel. Et en conclusion, il rappelle...
Des fois, l'huile, il peut être un ingrédient qui tient un plat entier. Voilà, c'est un peu ma lettre d'amour à l'huile d'olive.
J'adore. Bon, alors direction le sud de la France maintenant, avec Pierre-Antoine Denis, fondateur des restaurants à succès Otto et La Cantinetta à Marseille, qui est un fou, là encore, de l'Italie. On l'est tous, mais lui aussi. Et d'ailleurs, il va évidemment souvent pour enrichir toutes ses inspirations. Lui utilise une huile de Sicile, cette fois, de la variété Tonda Iblea. Alors Tonda, c'est une abréviation pour ronde, rotonda. Voilà, et Iblea, en fait, ça fait simplement référence aux montagnes qui poussent où pousse la variété. Certains disent qu'elle a le goût de l'ancien sol sicilien.
Mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'endroits qui en produisent, non ?
Oui, effectivement. Alors Pierre-Antoine, lui, utilise plus particulièrement celle de la ferme Cinquecoli, voilà, ça y est, on y est presque.
Pourquoi celle-ci en particulier ?
Bah, pour ses notes d'herbes
fraîches. Vous
en avez
fraîches. Pas amené, j'aurais bien
mais
goûté,
si,
moi.
Attendez, ah, j'en ai, je vous les montre juste après.
Elle a donc des notes d'herbes fraîches, vous disiez.
Exactement, et parce qu'elle s'accorde bien avec beaucoup de plats, notamment, alors, tout l'été, il a cuisiné un carpaccio de courgettes paysannes, coupé très finement en rondelles, bien salé. Moi, personnellement, ça me fait saliver à cette heure-ci.
Carpaccio de courgettes, c'est délicieux, ouais, moi j'adore.
C'est, simple, c'est toujours la même chose.
Avec quelques herbes, un peu dessus, une bonne huile, effectivement.
Ça suffit. Bon, et enfin, le chef Zach Gana, de la nouvelle adresse à Paris qui s'appelle Lolo Cave à manger, utilise une toute nouvelle marque tunisienne qui s'appelle Kaya, alors ça s'écrit K-A-I-A, qui est faite à base de la variété Chemlali. Et il en fait entre autres une ganache chocolat, huile d'olive, fleurs de sel.
Ouais.
Alors Kaya a été fondée par Sarah Ben Romdan, qui a 27 ans, qui est une ancienne journaliste. Et elle produit cette huile depuis une propriété familiale, qui a des oliviers évidemment centenaires, et ce depuis 5 générations. Et du coup, elle nous explique un peu le patrimoine historique de l'huile tunisienne.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'olivier est intimement lié à la culture tunisienne, puisque les premiers arbres sont arrivés en Tunisie avec les Phéniciens, et que depuis, la culture n'a cessé de se répandre, notamment à l'époque romaine. Kaya est donc une huile d'olive fièrement enracinée dans le riche patrimoine tunisien, et qui est produite avec conscience, dans le respect de nos traditions ancestrales, de la terre et des hommes.
Alors, c'est très joliment dit. Effectivement, ce que nous dit Sarah, en fond, si je puis dire, c'est que la Tunisie a en fait souffert d'une image peu qualitative à force d'avoir produit en gros pendant de très nombreuses années. Et du coup, ça gâche un petit peu cet héritage et cette historique qui est énorme et existant. Donc la marque a pour elle mission de redorer le blason du pays.
Mais dites-moi, Philippine, j'ai l'impression que même les chefs se mettent à en faire, non ?
Exactement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mauro Colagrico.
On l'adore, mais ouais, oui, évidemment. Oui. Ça sent déjà l'huile d'olive dans
exactement.
Ce studio.
Par définition, il est très pro en la matière.
Un
moitié
argentin,
un moitié...
Au Mirazur,
exactement.
C'est ça.
Mirazur a été décerné meilleur restaurant au monde. Il y a aussi le chef que vous devez connaître aussi, Juan Arbeales, qui est un chef colombien, qui se trouve à Paris, qui a plusieurs restaurants, qui s'est associé au frère Chandios pour créer une marque qui s'appelle Calios. Mmh. Bon, alors, en conclusion, quelques petits conseils. Toujours privilégier des huiles pressées à froid, vierges extra, estampillées AOP ou AOC, d'ailleurs les deux, et plutôt des bouteilles en verre ou des bidons de fer, hein, c'est mieux pour la conservation. Maintenant, à table et à la prochaine.
Mais ils sont où les huiles d'olive ?
Eh ben voilà, ne bougez pas.
Oui, on va voir ça. Parce que moi, en tout cas, cette chronique, elle me conforte dans mon mantra quotidien. L'huile d'olive, c'est la vie. Vous êtes d'accord, Sophie Braffman, même si vous faites la mode.
Alors,
parce que
cette semaine, je vais m'abstenir. Je ne prendrai pas d'huile d'olive.
Pourquoi ?
Mais en général,
parce
je suis
que
d'accord.
C'est la Fashion Week, on mange pas ?
Non, on mange pas du tout. D'ailleurs, je me sens un peu mal. N'hésitez pas. Mais je vais défaillir.
Et vous, Cécile ?
Moi, je suis d'accord parce qu'on voyage. Rien qu'en consommant l'huile d'olive, on va en Sicile, en Sardaigne,
elles sont belles.
Moi, sur un petit bout de pain, un petit cliché avec un peu de sel.
Exactement.
Bon, ça suffit. Restez ici toute la bande autour de la table, on revient dans un instant parce que maintenant qu'on est bien rassasié, enfin presque, par les conseils cuisine des Philippines, on va se glisser dans un simulateur de vieillissement. Alors vous allez voir, c'est très étonnant comme expérience, comme vous allez l'entendre. Et puis avec le coup d'envoi de la Fashion Week, on va s'intéresser sur à la femme, enfin la
elle,
parisienne.
Elle mange plus, mais elle a des trucs à nous raconter.
Exactement. Mais surtout, est-ce que la parisienne existe ? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Femme, licorne ou vraie nana ? On va tout vous expliquer.
Europe 1. Le meilleur de Bienfait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio dans cette dernière demi-heure consacrée à toutes les tendances du moment, celles qui nous font du bien ou qu'on meurt d'envie de découvrir. Passons maintenant aux bonnes idées pour nos auditeurs en pleine maturité, les quinquas et plus. Et aujourd'hui, Cécile Coumeau, vous allez nous parler d'un simulateur de vieillissement que vous avez testé rien que pour vous. Ça se voit pas, hein ?
Rien que pour nous !
En fait, le but, c'était de me mettre dans la peau d'une personne âgée qui commence en fait à perdre son son autonomie. Parce que se mettre à la place d'eux, eh ben, il n'y a rien de mieux pour développer l'empathie, en fait. Et comme autour de 50 ans, ben, beaucoup d'entre nous, on a des parents dans le quatrième âge, je me suis dit que ça serait peut-être utile, quoi.
Bon, ok, Cécile, mais concrètement, vous avez fait comment pour faire un voyage dans le futur et prendre 30 ans d'un coup? Dites-nous surtout qu'on ne le fasse pas.
Si, si, vous verrez, c'est utile, il faut le faire. Mais j'ai fait appel à Jean-Paul Lechien, qui a créé donc un simulateur de vieillissement. Il se compose en gros de trois éléments. Différentes lunettes qui vous donnent la vision de quelqu'un qui souffre de cataracte, de glaucome ou de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. D'un casque qui simule la presbyacousie, c'est-à-dire donc la perte d'audition liée à l'âge, et d'un exosquelette qui limite votre motricité.
Mais c'est quoi un exosquelette ?
Alors, un exosquelette, en fait, c'est composé de sortes de prothèses qu'on va mettre sur les mains, sur les bras, les jambes, et qui se fixent avec de simples scratchs. Mm-hmm. Ça ressemble en fait à ce que vous mettez parfois quand vous êtes fait une entorse. Sauf que le but là, ben, c'est de limiter les flexions et extensions des articulations, comme si vous souffriez en fait de rhumatisme.
Donc vous ressentez avec cet exosquelette et puis tout l'attirail là, les douleurs rhumatismales.
Non, alors,
quel bonheur.
Non, non, quand même pas. Donc justement, donc c'est pas tout à fait quand même la vérité, mais on a l'impression en fait que tout est ralenti. J'ai essayé de mettre mes lunettes, ça m'a pris 3 minutes, mais je n'étais pas au bout de mes peines. J'ai fait le test des escaliers.
Alors, on va essayer tout d'abord de monter.
Oui, c'est vrai que c'est moins, ça fait moins peur, déjà.
Alors, faut tenir la rampe.
Alors, ah ben, alors j'enlève la canne, alors, parce que je ne peux pas tout faire, là.
Voilà. Donc, une marche à la fois.
Oui, alors, je me rends compte que je suis très au bord de la marche. Ouais. C'est rigolo, parce que je vois ma mère, elle fait ça, d'ailleurs. Et elle met que le bout du pied sur la marche. Et là, je viens de me rendre compte que je fais la même chose. Et à chaque fois, je dis, mais maman, mets ton pied au fond.
Elle peut pas.
Mais ouais, et c'est pour ça qu'elle est déjà tombée dans les escaliers, hein, je vous le dis.
Donc, on le sent, hein, wow. Franchement, c'est immersif, c'est incroyable.
Et donc, vous voyez que le but recherché, en fait, qui est bah, de mieux comprendre ses proches, hein, ses parents, enfin voilà, eh bien, ça marche. Et l'expérience, croyez-moi, était loin d'être finie.
Ça, c'est quoi ? C'est pour mettre autour
ça,
du cou ?
Ça, c'est pour simuler les rhumatismes du cou.
Ah ouais ? D'accord, parce qu'on a
essayer
aussi...
De faire
des
un
rhumatismes,
créneau.
On en a partout, en fait.
Ouais. Ouais.
Essayez de faire un créneau.
Un créneau.
Alors attendez.
Parce qu'il y a le siège, il y a le siège qui vous tient là.
Ah ouais, alors attendez. Ben là, je peux regarder juste à droite là, mais je peux pas regarder derrière, c'est impossible.
Tout à fait.
C'est impossible. Donc il faut que je me gare en épi ou alors je conduis plus quoi. En gros, c'est ça.
C'est ça, hein, voilà. Je pense.
Oui,
c'est à un moment donné, ça se demandait effectivement. On a l'impression d'entendre les vertèbres craquer.
Non, mais c'est sûr qu'avec ça, on comprend bien que progressivement, il y a de nombreux actes de la vie quotidienne qui sont carrément limités.
Oui, c'est ça, exactement. Et je vous fais grâce du moment où j'ai essayé d'aller aux toilettes avec le simulateur de vieillissement. Heureusement que j'avais des abdos pour me relever, hein, quand même. Hein.
Et cette perte de mobilité, Cécile, elle s'accompagne d'une perte de confiance, j'imagine. Quand on porte tout ça, là, ça a dû vous donner un bon exemple. Hein.
Oui, notamment parce que ce qui rajoute, c'est que les sens sont affectés, la vue, l'audition, comme je vous le disais. Et du coup, tout ça, ça finit par créer finalement des tensions entre aidant et aidé. Et je l'ai encore très bien compris quand j'ai mis les lunettes simulant la cataracte et que je suis sortie sur mon balcon.
Ah ouais.
Faites gaffe, hein. Attendez, je vais passer devant.
Ah, c'est encore pire. Effectivement, la vision en plein soleil, c'est comment dire ? Oh là ! Ouais, d'accord. C'est... Ça fait des...
Ah, c'est... On est au-dessus du Mont Blanc, là.
Ouais, c'est ça, on est au-dessus du Mont Blanc. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas au-dessus du Mont Blanc, quoi. C'est quand même beaucoup moins sympa.
D'où le fait que quand un grand âge, on a ce temps-là, on ne sort pas. Parce que là, il va vous trouver une ruse. Oh non, j'ai pas envie, j'ai mal digéré. Mais il fait beau !
Et oui, on va s'énerver parce qu'on...
Pourquoi tu veux pas sortir ? Il fait beau !
C'est incroyable.
Ouais.
Ah ouais, on pense tous à nos grands-parents.
Oui, c'est ça, exactement. Mais en fait, pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, l'expérience la plus étonnante, c'était liée à la perte d'audition avec ce casque qui finalement vous donne l'impression d'être au fond d'une piscine.
Alors, juste un truc là. Est-ce qu'on peut enlever les lunettes cataractes? Là, ça commence à me faire mal au crâne. Oh la vache.
Non, parce que...
Attendez, vous venez de m'enlever le casque. Là, c'est un bonheur de récupérer. C'est une expérimentation. C'est de retrouver aussi... On sent vraiment la différence. Enfin, je suis vraiment beaucoup plus dans l'instant présent, en fait, en retirant ce casque qui assourdit tout.
Vous voyez que le but de départ, hein, donc c'est vraiment hyper instructif. Alors évidemment, pour bien faire, il aurait fallu que je le teste toute la journée pour pouvoir se rendre compte de tous les actes de la vie quotidienne. Hein. Mais finalement, se mettre à la place d'eux, c'est vraiment la meilleure des solutions, enfin une des très bonnes solutions pour
comprendre son aidant et arrêter de s'énerver en fait.
Sophie Braffman, on peut aller à la Fashion Week de Paris avec tout cet attirail là.
Bien sûr,
qu'il n'y en a aucune qui l'a osé.
Et, vous allez être super bien reçue. C'est ça qui est agréable.
Allez, grosse actu justement, c'est la Fashion Week à Paris.
Et oui, vous allez nous parler d'une femme ce midi et de quelle femme, la parisienne. Elle fait fantasmer le monde entier. Mais la question, c'est existe-t-elle vraiment?
Parce que la parisienne, elle est un peu plus timorée. Elle crie moins, elle boit moins, elle ose moins. Bref, a priori, elle serait même peut-être un peu chiante. Pourtant, on la célèbre partout, à la Samaritaine. Ça n'a pu vous échapper, qui vient de rouvrir ses portes. Et ce week-end se tenait au Crillon un événement intitulé La Parisienne, au Crillon, ça c'est vraiment Paris. Une réunion de jeunes marques organisée par Amandine, la fondatrice de The Réunion. Alors j'ai voulu comprendre avec elle, mais qui est vraiment cette Parisienne?
La Parisienne, c'est quelqu'un qui est né à Paris et qui est né avec un sens inné du style. C'est quelque chose qui est tellement naturel et spontané que je pense que ça fait un peu envie, parce que même en travaillant la question, c'est difficile d'atteindre ce niveau de coiffé-décoiffé, de chic naturel.
Sur le coiffé-décoiffé, je me sens assez concernée là ce matin. Alors, pour le coiffé-décoiffé, surtout décoiffé, hein, pour ma part. Donc, si je comprends bien, on est toujours sur le mythe Caroline de Maigret, Inès de la Fressange. Une belle brune filiforme, très grande, avec un panier en osier, un vélo électrique acheté chez Ancel Marcel à plusieurs milliers d'euros et un air tout à fait naturel, malgré une bonne heure de préparation. Alors, j'ai rencontré à la suite Charlotte, suédoise, née à Paris, donc parisienne d'adoption, créatrice de la marque Linea Lund, qui sont de très jolis cachemires. Et je me suis dit peut-être qu'elle voyait autre chose derrière le mythe de cette Parisienne.
En fait, la Parisienne, elle est chic. Mais snob, mais sans être hautaine. Je pense que ça, pour moi, c'est la nuance. Être snob parce qu'on aime les belles choses et qu'on apprécie les belles choses, surtout, c'est pas forcément négatif.
D'accord. Et la Suédoise, elle est comment alors?
La Suédoise, alors elle est sportive, humble, sympathique et puis je pense qu'elle est très décomplexée.
Sophie, est-ce que vous pensez qu'il y a une Parisienne autour de la table, là, d'ailleurs, après tout, maintenant que votre enquête est quasiment au bout, là,
laquelle? Je dirais philippine. Pour une raison très simple.
Elle se cache, je pense qu'elle est parisienne.
Non, parce qu'en
fait, elle l'assume pas.
Elle a porté toute l'esthétique du goût du moche. Et donc voilà. Là, je me suis dit, forcément.
Je me suis reconnue dans toute la chronique. Hein.
Mais c'est parce qu'elle a le style détendu, Philippe.
Non, elle est totalement. Après, attention, on est un peu toutes des Parisiennes d'adoption aujourd'hui, mais là, on est un peu sur un cliché, évidemment, de la Parisienne. Alors, comparativement à la Suédoise, elle a l'air quand même vachement plus détendue.
Ah oui, complètement.
Vous êtes d'accord, Julia?
Complètement.
Vous êtes parisienne, vous, Julia?
Moi, je suis née à Paris, mais j'ai...
Vous avez des origines
ailleurs? Non. Ouais. Je suis née à Paris, mais je ne ressemble pas à une parisienne.
Ouais, ça sent un peu l'huile d'olive,
c'est
quand même,
ça,
excusez-moi.
Je vous trouve quand même très détendue et très cool pour une parisienne.
Ah, je vous remercie.
Voilà, alors la Suédoise, c'est normal qu'elle soit plus cool. Évidemment, elle fait de la gym, elle sait monter des meubles Ikea sans se casser un ongle et elle mange quand même du saumon mariné sur du pain noir au petit-déj. Forcément, il n'y a pas de quoi être snob dans un contexte pareil. Alors, j'ai croisé ensuite une influenceuse qui, donc, est comme nous, une parisienne d'adoption, Amélie, et qui n'est pas née à Paris. Et je lui ai demandé s'il y avait des petits tips pour devenir parisienne pour celles qui ne le seraient pas.
Marcher dans la rue, lâcher ses cheveux, prendre un vieux panier de plage, aller manger une glace au jardin des Tuileries, regarder le soleil briller, boire un verre de vin en trop. Voilà, c'est un peu tout ça être parisienne.
Ok, il va falloir qu'on s'entraîne, Mélanie. Hein.
Vous avez compris, les filles. Alors, ouais. Ça va être compliqué de rester totalement chic avec un verre de vin rouge dans un parc et décoiffé. Hein. Faites bien attention
c'est
quand même.
Ça. C'est pour ça que je suis très fière d'être
sous la perpignanaise. Merci beaucoup, Sophie. Merci.
11h30 sur Europe 1. Le meilleur de bienfaits pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bon, allez. À présent, on se réveille, hein, plus que jamais, puisque les conseils beauté de Benjamin Lévesque vont inonder ce studio. Alors Benjamin, vous avez pris des risques, je crois, pour cette chronique. Racontez-nous.
Oui, alors c'était pas l'Afghanistan, je suis pas non plus baigné au milieu des requins blancs, non. Je me suis rendu dans le 17e arrondissement de Paris pour tester une facialiste. Alors, comme son nom l'indique, elle va agir sur le visage. C'est un mélange entre l'esthéticienne et la dermatologue. Alors, comme souvent, ça a démarré aux États-Unis, hein, et le phénomène ensuite a pris de l'ampleur pour arriver en France il y a quelques temps, et même dans les Institut de beauté, aujourd'hui, on propose les soins d'une facialiste.
Et Benjamin, c'est comme un massage pour nous débarrasser des rides, c'est ça?
Et oui, en fait, on va utiliser plusieurs dizaines de techniques de massage à des vitesses et intensités plus ou moins différentes sur le front, les yeux, les joues, bref, partout. Et avec cette méthode, eh bien, on va réussir à lifter la peau du visage, comme le dit Marie de Poulain.
Le fait de stimuler les muscles, ça permet de redensifier en fait la masse musculaire et de repulper complètement les pommettes, de lisser l'aride du lion, favoriser les techniques de drainage au niveau du cou, du décolleté. Un visage qui va être plus harmonieux, qui va être plus détendu, qui va être moins contractée va vieillir un petit peu différemment. C'est-à-dire que c'est une alternative à certaines injections ou à des méthodes un petit peu plus invasives comme des liftings.
Est-ce que ça ressemble au massage Cobido, Benjamin ?
Bah oui, en fait, une facialiste va utiliser plusieurs techniques. Celles que j'ai rencontrées pratiquaient le shiatsu, le drainage du visage et le fameux Cobido. Alors pour comprendre l'origine de ce massage, il faut remonter loin en arrière en 15e siècle et direction le Japon. C'est là-bas que deux maîtres ont inventé cet art. Alors tout le monde n'avait pas accès au Cobido, hein, c'était réservé à un tout petit cercle, uniquement les impératrices. Et puis ça s'est démocratisé et aujourd'hui le Cobido se transmet de maître à disciple depuis 26 générations.
Bon, ce qu'on aime Benjamin, c'est que vous nous racontiez le « j'ai testé pour vous, j'ai pris des risques ». Racontez-nous comment s'est déroulée la séance. Ouais,
alors je me suis justement rendu chez la facialiste Marie de Poulain. C'était la semaine dernière en fin de journée. Le cabinet était au fond d'une cour et en entrant, je découvre un endroit très lumineux, hyper cosy. Tout paraissait naturel et zen. Il n'y avait pas d'outils technologiques comme des lampes à LED ou des lasers anti-rides. On aperçoit juste des huiles, quelques pierres et puis des petites balles aussi en silicone. Et pour débuter la séance, eh bien, elle examine d'abord ma peau. C'est pour savoir en fait quel type de massage je vais avoir besoin. Écoutez.
Comme je travaille sur le cou et le décolleté, je vais vous demander d'enlever votre t-shirt de façon à ce que je puisse masser le trapèze, les épaules.
Ok, d'accord. Donc je retire le t-shirt.
Je vais regarder la qualité de la peau.
Et là, qu'est-ce qu'on peut dire sur ma peau ?
C'est une peau saine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'inflammation. Il y a eu des petits boutons.
Des cicatrices d'acné, oui, sur les joues.
Tout à fait.
Et ça, vous allez pouvoir agir dessus ?
À partir du moment où on va accélérer la régénération cellulaire, on va pouvoir un petit peu réoxygéner, on va flouter un petit peu ces cicatrices.
D'accord.
Voilà, donc presque un sans faute.
Vous avez pris vraiment des risques, vous avez pris froid aussi peut-être, parce que vous étiez...
C'est peut-être là où j'ai chopé mon rhume. Voilà, quelques petites cicatrices d'acné, ouf, pas de rides, hein. En même temps j'ai 29 ans.
C'est ça, se calme.
Il y en a pour qui ici ça n'aurait pas été le cas. Et donc ensuite, la facialiste va me préparer une séance sur mesure, et elle commence par un bon nettoyage du visage, et ensuite c'est parti. C'est parti, commencez pas. Pour une heure de massage, on écoute quelques extraits.
La castagnette. C'est vraiment des techniques très stimulantes.
C'est pour les joues, ça ?
Tout à fait. Ça rehausse les pommettes. Là, je fais quelques petites stimulations au niveau de l'ovale du visage. C'est-à-dire que là, le visage commence vraiment à se détendre.
Ça chauffe un petit peu les joues.
Ça chauffe.
Là, Marie, vous n'utilisez pas vos doigts, non, pour me masser ?
Non, tout à fait. J'ai pris des balles en silicone. On continue la stimulation, le lissage, le drainage, mais de façon beaucoup plus légère. Alors, tout doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et je vous laisse vous rhabiller tranquillement.
Voilà. Bah dis donc, ça donne quoi le résultat ?
Alors, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment, on prend un coup d'éclat.
Ah oui ?
En même temps, c'était tellement tonique que forcément, on prend des couleurs.
Ça vous tente, Jeffrey ? Non, je suis sûr que...
Là, ça me vend du rêve et je me demande si là, il y a une disponibilité tout de suite.
Ah, je peux lui demander. Je peux avoir un rendez-vous.
Il a mis le moment des castagnettes, là, ça avait l'air dynamique.
Mais ça dure combien de temps, ce massage ?
Alors, ce massage, ça dure une heure. Après, les effets vont durer quelques jours. Donc, l'idéal, c'est de le faire avant un événement. Un anniversaire, un mariage, c'est l'idéal. Et pour le prix, il faut compter une centaine d'euros.
Oh bah ça donne envie, hein. Tout le monde est mort de rire, alors que vous avez une mine splendide. Merci Benjamin.
J'ai pas compris pourquoi elle vous a mis tout nu pour l'histoire.
Non, juste c'est le haut, elle m'a juste retiré le haut.
Les trapèzes, Mélanie, d'accord. On vous a dit.
11h30 sur Europe 1, le meilleur de bienfaits pour vous.
Et bien voilà, bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, on se retrouve demain à partir de 11h jusqu'à 12h30 pour un nouveau thème, de nouvelles tendances, un nouveau dossier santé du jour. Et finalement, Mélanie Gomez sera toujours dans la place. Et bien voilà, on vous attend demain à partir de 11h, toujours sur Europe 1.